Culture et confiture. Une chronique bien tartinée par Manon Seren.
Vous reprendriez bien un peu de culture ? Alors c'est parti ! Mais avant tout, si vous êtes encore au petit-déj, faites griller les tartines, beurrez et ajoutez votre cuillère de confiture. Mais surtout, n'étalez pas trop votre culture. C'est parti pour un nouvel épisode de Culture et confiture. Pour débuter cette chronique, je vous pose la question : que s'est-il passé un 18 mai ? Alors on aurait pu parler de l'inauguration il y a 27 ans de la ligne de TGV Nord-Europe-Lille-Paris par François Mitterrand, mais comme pour le moment nos déplacements sont encore limités, j'ai décidé de vous faire voyager autrement grâce à la musique. Je vous cache pas que l'on aime bien ça chez RPL Radio. On va donc souffler tous ensemble les bougies de la sortie d'un album, le dernier d'un célébrissime boys band. Allez, on se remet les tambours, je sais que vous les adorez. Il s'agit donc de la sortie de l'album Let It Be des Beatles. Ce 12e et dernier album pour le groupe est en effet paru le 18 mai 1970. A vrai dire, il y a deux dates, puisque l'album est sorti en France et au Royaume-Uni, 10 jours plutôt qu'au Canada et aux États-Unis. Ce 33 tours de 35 minutes sort à l'époque dans un climat particulier, puisque le groupe est déjà officiellement séparé. Mais revenons à ce dernier album qui ne l'est en vérité pas tout à fait. Oula, je sens que je vous perds avec mes dettes. Alors si on résume, si Let It Be est bien la dernière sortie du groupe, il se trouve que les morceaux avaient été écrits et enregistrés bien avant, et qu'entre la sortie officielle et l'enregistrement, le groupe avait déjà enregistré de nouvelles chansons, notamment celles que l'on retrouve dans leur précédent album, Abbey Road. Pour l'album Let It Be, les quatre musiciens souhaitent proposer quelque chose de différent. L'album s'inscrit en effet dans le projet Get Back, revenir, une sorte de retour aux sources pour le groupe. Pour ce faire, ils souhaitent s'enregistrer dans des conditions particulières, notamment lors d'un concert. Celui-ci doit alors donner lieu à l'enregistrement d'un film. Et c'est donc sur le toit de l'immeuble de leur compagnie Apple Corps qu'aura lieu ce fameux concert enregistré de Let It Be. S'ajouteront également quelques enregistrements supplémentaires en studio. Mais confronté à des difficultés aussi bien logistiques que relationnelles, le projet finira par tomber à l'eau. Seules trois chansons, Get Back, Don't Let Me Down et Let It Be, seront publiées en single.
Culture et confiture.
Quelques mois après cet échec, le groupe se dote d'un nouveau manager, Alan Klein. Ce dernier se procure alors les bandes d'enregistrement de Let It Be, jusqu'alors mises de côté, et les confie, sans même l'accord de Paul McCartney, alors moteur du groupe, au producteur américain Phil Spector. Celui-ci retravaille les enregistrements à sa manière et fait paraître l'album et le film Let It Be. Si l'album battra tous les records de précommande avant parution, notamment aux États-Unis, le travail presque en solitaire du producteur Phil Spector sur ce projet sera largement discuté. Paul McCartney décidera d'ailleurs plus de 30 ans après, en 2003, de le republier de manière déspectorisée en proposant l'album Let It Be Naked. Un album remasterisé fait à partir des enregistrements de 1970, vide donc de la touche Spector. Et c'est pendant cette période de trouble que le groupe décide de se séparer. Du reste, Let It Be sera un album à grand succès avec quelques particularités. Les connaissez-vous peut-être déjà ? En tout cas, il se trouve que c'est l'un des deux rares albums des Beatles sur lequel Ringo Starr ne chante pas et où George Martin, prédécesseur du manager Alan Klein, n'est pas crédité malgré son engagement sur le premier projet Let It Be. Autre exception, l'album compte également parmi ses contributeurs le musicien Billy Preston qui joue à l'orgue et au piano. Et alors que l'on parle des Beatles, j'ai un petit scoop. Il se trouve qu'un album inédit, Angel in Disguise, entre très prochainement aux enchères pour soutenir l'association caritative NHS, un soutien au système de santé du Royaume-Uni. L'album mis en vente a été composé en 1992 et n'avait jamais été révélé au grand public. Sachez aussi que la cassette sera accompagnée d'autres surprises telles que des autographes originaux de Paul et Linda McCartney. On estime déjà le coût de la cassette à plus de 20 000 livres. Bon, et si vous aviez prévu d'aller voir Paul McCartney au Zénith de Lille, malheureusement, avec la situation sanitaire, il va falloir patienter encore un peu. Mais j'ai quelque chose pour vous consoler. Paul McCartney s'est en effet engagé lors du concert virtuel One World Together at Home. Cette émission organisée par la chanteuse Lady Gaga pour soutenir l'OMS et les travailleurs de santé du monde entier proposait en effet un concert en ligne de chez soi aux côtés de grands noms de la musique et quelques extraits sont disponibles sur YouTube, notamment le passage de Paul McCartney. Alors à vos clics et on se retrouve très vite pour le prochain épisode de Culture et Confiture.
Retrouvez Culture et Confiture en podcast sur notre site rpl.radio.